France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Pour comprendre les figures rhétoriques qui régissent le discours politique, il faut comprendre le statut de la parole à Rome. À Rome, la parole gouverne. Mais il faut aller plus loin encore, du côté de la Grèce antique et d'Aristote, pour saisir les règles du discours politique. L'émission Tire ta langue tissait ce pont entre la politique contemporaine et la Grèce antique, dans une émission diffusée le 29 février 2000. Oui, vous avez bien entendu, le 29 février.
Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue, dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde.
Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Françoise Camard.
À Montreuil, on dit ouais, il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main? Mais que fait-il donc? On ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas de sa faute, donc il s'est tiré.
Deux semaines de suite, Tire ta langue vous propose un documentaire en forme de diptyque composé par Marie-Christine Navarro. Il s'agit, vaste programme, de retisser le fil qui vient juste peut-être de se rompre, reliant l'art oratoire de l'Antiquité à la Ve République. Et ce, sans doute, grâce aux jésuites et autres fervents éducateurs latinistes. Bien sûr, l'art oratoire n'est pas sans avoir connu quelques baisses de régime depuis Cicéron. Souvenons-nous du pauvre Robert Schumann à la Chambre sous la 4e République, dont Georges Bidault disait « c'est un moteur à gaz pauvre » et auquel on criait lorsqu'il peinait à la tribune « allez U, monte la côte !» Mais au sommet de l'État, à partir de 1958, nous eûmes l'impression que le discours était du latin traduit. De Gaulle parce que c'était De Gaulle, Pompidou parce qu'il était normalien, Giscard parce qu'il avait été l'élève de Paul Gut à Janson de Sailly, et enfin Mitterrand, parce qu'il était avocat. Depuis 1995, en revanche, à l'Élysée, l'écho latin a disparu. Cette résonance, cette réverbération antique, Marie-Christine Navarro l'a retrouvée chez les parlementaires corses. Nous l'entendrons dans un instant. Ensuite, vers 3h-20, nous persisterons à fouiner dans les siècles d'avant l'ère chrétienne. Je recevrai un chercheur du CNRS, Tiziano Dorandi, qui publie aux belles lettres le stylet et la tablette dans le secret des auteurs antiques. Mais, ab Jove principium, place à notre chroniqueur, Philippe Barthelet.
Parlementage. Les Français raffolent de s'entendre parler. C'est pourquoi ils ont fait la Révolution, laquelle se présente au début comme un concours d'éloquence. Parler, on l'oublie trop, a donné parlement. Les orateurs politiques se distinguent moins par leurs arguments que selon leur nature. Il y a les humides et les secs, les causeurs et les exécuteurs. C'est le causeur qui fait le moins d'usage. Il est victime de sa facilité, comme ce Vergniaud au verbe si aisé, si fleuri, déjà lamartinien, dont on répétait les élégantes formules et qui était si sûr de son talent qu'il se permit un jour d'interrompre un collègue plus laborieux d'un conclué qui lui fut fatal. Le laborieux repartit aussitôt. « Oui, je vais conclure, et contre vous, vous qui ?» etc. On n'avait pas entendu pareille improvisation depuis le quousque tandem Catilina. Vergniaud en eut la parole coupée à jamais. L'orateur laborieux s'appelait Robespierre. Un sec, s'il en fut un. On connaît l'exorde de son dernier discours, le 8 Thermidor en deux, si menaçant pour les fripons qui s'empressèrent de l'exterminer. Citoyens, que d'autres vous tracent des tableaux flatteurs, je vais vous dire des vérités utiles. Dans ses discours de guerre, Clémenceau retrouvera cette sécheresse contrainte, grosse de toutes les représailles. À l'autre pôle, parmi les exubérants, le premier fut Mirabeau, qui reste le père incontestable de l'éloquence politique française. Quoique ses contemporains ne supportassent qu'avec répugnance sa hure, comme il disait, ils le trouvaient plus foudroyant que Démosthène et plus entraînant que Cicéron. Son discours sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est du Victor Hugo avant la lettre. « C'est pour nous, c'est pour nos neveux, c'est pour le monde entier que vous allez travailler. Les peuples admirent le calme et la maturité de vos délibérations, et l'espèce humaine vous comptera au nombre de ses bienfaiteurs. » Jaurès lui succéda dans le genre messianique, allant jusqu'à proclamer, dans un discours de 1905, que « c'est dans le prolétariat que le verbe de la France se fait chair », ce qui fit dire à un député de droite « voilà qu'il nous récite l'Angélus ». C'est que l'éloquence tribunicienne ne recule devant rien, selon la règle fixée par Gambetta. L'orateur doit être personnel, suivre sa nature, obéir à son tempérament, éviter la convention, se creuser lui-même. En suivant une autre méthode, il peut arriver à la pureté harmonieuse, à la correction académique. Il ne sera jamais un dominateur des consciences. C'est en termes plus explicites le commandement du démagogue, omnia serviliter pro dominatione. Nous suçons toujours le lait de la louve.
À tous les combattants de la liberté, la France lance un message d'espoir. Elle adresse son salut aux femmes, aux hommes, aux enfants même, oui, à ces enfants héros semblables à ceux qui, dans cette ville, sauvèrent jadis l'honneur de votre patrie et qui tombent en ce moment même de par le monde, pour un noble idéal.
Quel homme, digne de ce nom, pourrait souffrir en effet que ces gens regorgent de richesses qu'ils gaspillent pour bâtir sur la mer ou pour aplanir des montagnes, tandis que nous n'avons pas d'argent même pour le nécessaire, qu'ils accolent pour leur usage deux palais l'un à l'autre, ou même davantage, tandis que nous n'avons nulle part de foyer familial. Ils ont beau acheter tableaux, statues, vases ciselés, démolir des maisons neuves pour en construire d'autres, bref, gaspiller et dilapider leur argent de toutes les façons. Ils ne peuvent pourtant, malgré toute leur folie, venir à bout de leurs richesses. Mais pour nous, à la maison, c'est la gêne. Au dehors, les dettes, un présent lamentable, un avenir plus triste encore. Enfin, que nous reste-t-il sinon un misérable souffle de vie? Eh bien alors, réveillez-vous! La voici, oui, la voici cette liberté que vous avez tant souhaitée, et avec elle richesse, honneur, gloire sont devant vos yeux!
Catilina avait comploté pour essayer d'obtenir le pouvoir. Il n'avait pas été élu au consulat. Il avait, disons, toute une faction derrière lui et on craignait qu'il ne fasse sombrer la République. Et comme, justement, cette année 63 avant notre ère, Cicéron est aux commandes, puisqu'il est l'un des consuls, et devant la menace de ce complot, de cette conjuration de Catilina, c'est lui qui est chargé par le Sénat de mener la riposte. Eh bien, Cicéron va donc être amené à intervenir à plusieurs reprises, ce sont les célèbres catilinaires, soit au Sénat, soit devant le peuple. Or, cette première catilinaire se situe juste après la menace qui avait couru sur la mort de Cicéron. Car la petite histoire vient quelquefois aider à comprendre la grande, nous savons que Catilina voulait faire assassiner le consul. Et évidemment, il fait convoquer le Sénat au temple de Jupiter Stator, c'est tout symbolique, Jupiter, celui qui arrête, que Romulus avait fait construire parce que, justement, Jupiter avait arrêté l'ennemi, donc c'était une valeur symbolique très forte. Et là, il faut se rendre compte qu'on sait la culpabilité de Catilina. Il est sénateur, il vient à la séance. Il rentre dans le temple. Alors, les bancs sont disposés, évidemment.
En demi-cercle.
En demi-cercle, on peut imaginer. Et
Il est sur son banc et tout le monde le laisse sur son banc. Il est tout seul, là, au milieu, en face de l'orateur qui va prendre la parole, et tous les autres, n'est-ce pas, sont de part et d'autre, mais il est tout seul sur son banc. Et Cicéron va l'accuser devant tout le monde.
Alors,
Il l'invective. Il le montre du doigt, n'est-ce pas ? Hic, dit-il dans le discours. Il le montre du doigt et il le prend à partie directement. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il prononcera tout ça, parce que nous savons que Catilina s'est levée, qu'il a injurié Cicéron, enfin ça a fait beaucoup de bruit, il est parti, j'allais dire, en claquant la porte. Bref, la séance s'est très mal passée, donc je ne sais pas s'il a eu tout le temps de faire ce long discours.
Messieurs, je constate que l'Assemblée n'est pas unanime. Je vous demande de vous rasseoir, Mais écoutez-moi.
Mais le début est intéressant. C'est un exorde. L'exorde, c'est la première partie d'un discours. C'est ce qui sert à attirer l'attention du public, à se le concilier, on va dire. Et avant de le développer sous forme de narration et puis de confirmation et de réfutation selon les parties normales du discours. Et c'est ce qu'on appelle un exorde ex abrupto, c'est-à-dire qu'il le prend à partie directement. Il rentre dans le vif du sujet immédiatement et on utilise des répétitions. On remarquera la répétition de « nil, nil, nil », c'est ce qu'on appelle une épanalepse dans le jargon des figures de rhétorique. Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra? Quam dio etiam furor iste tuus nos eludet? Quem et finem sese frenata iactabit audacia? Nil ne te nocturnum praesidium palati, nil urbis vigiliae, nil timor populi, nil concursus bonorum omnium, nil ic munitissimus abandi senatus locus, nil horum...
Jusqu'à quand, enfin, Catilina, abuseras-tu de notre patience? Combien de temps encore ta fureur esquivera-t-elle nos coups? Jusqu'où s'emportera ton audace sans frein? Rien, ni les troupes qui la nuit occupent le Palatin, ni les rondes à travers la ville, ni l'anxiété du peuple, ni ce rassemblement de tous les bons citoyens, ni le choix de ce lieu le plus sûr de tous pour la convocation du Sénat, ni l'air, ni l'expression de tous ceux qui sont ici... Non, rien n'a pu te déconcerter. Tes projets sont percés à jour. Ne le sens-tu pas? Ta conspiration connue de tous est déjà maîtrisée. Ne le vois-tu pas? Ce que tu as fait la nuit dernière et aussi
Jean-Noël
la nuit
Robert,
précédente.
Vous êtes latiniste, historien de Rome, passionné de Rome, passionné du quotidien de ces Romains qui sont si proches de nous. Et vous êtes aussi, par ailleurs depuis peu, responsable d'une nouvelle collection aux belles lettres, les Guides de civilisation. Vous avez été l'auteur du premier qui portait précisément sur Rome, paru l'année dernière. Alors je disais que les Romains étaient proches de nous, que nous avions continué la tradition romaine, en particulier en ce qui concerne l'exercice de ce qu'on pourrait appeler la parole publique, le discours politique public, jusque en gros dans les années 70 de notre siècle. Et pour comprendre précisément les figures de rhétorique qui règlent ce discours encore aujourd'hui, eh bien il faut comprendre ce qu'était le statut de la parole à Rome.
À Rome, la parole, c'est tout. C'est tout dans la mesure où on veut bien laisser les citoyens s'exprimer. Seulement, évidemment, à l'origine, on imagine bien que le discours n'a pas été toujours mis en forme. Les règles de ce discours, au fond, nous viennent de la Grèce.
Aristote, c'est ça.
Aristote les a mises en forme, et les grands orateurs de l'époque classique, auparavant, ont donné d'illustres exemples, Lysias, Isocrate, Démosthène, et quelques autres, pour parler des orateurs attiques. C'est donc que ces règles oratoires viennent de la Grèce antique. Alors, à Rome, elles vont pénétrer petit à petit, mais à partir du deuxième siècle avant notre ère. Rappelons que ça correspond au moment où Rome a vaincu Carthage et va faire la conquête de la Méditerranée, donc va avoir sous sa coupe bientôt la Grèce et puis l'Orient, et où par conséquent Rome va dominer la Méditerranée. Auparavant, nous n'avons guère de témoignages. Ce que l'on peut dire, c'est que la parole existait, c'est qu'il y avait des discours, on nous en parle un petit peu, et on nous dit que la parole était souvent un peu rude, un peu difficile, un peu abrupte, mais elle ne devait pas, bien sûr, répondre vraiment aux règles de rhétorique qu'elle a connues par la suite.
Mais ce que vous dites est intéressant, Jean-Noël Robert. Les discours que nous avons aujourd'hui de cette période, enfin qui s'étalent jusqu'aux années 60 avant notre ère, ou jusqu'au début de notre ère, sont des discours qui ont été ensuite réécrits, mais que ces discours ont d'abord été prononcé ou devant le Sénat ou devant l'Assemblée, oralement.
Absolument. Alors, je dirais qu'il y a un grand paradoxe là, c'est qu'on s'imagine toujours que le latin est une langue écrite. Et c'est vrai que c'est l'écriture qui a pérennisé la pensée latine, et aujourd'hui nous connaissons les latins à travers leurs écrits. Mais il faut bien se rendre compte que pour tout le monde, même les écrivains qui ne prononçaient pas de discours, le latin littéraire est d'abord une forme orale. C'est-à-dire qu'un écrivain ne prenait pas son stylet pour écrire. Un écrivain dictait déjà à ses scribes, à ses secrétaires, le texte de ce qu'il était en train de rédiger. Et les scribes lui répétaient, ils le réentendaient. Moi, ça me fait penser au gueuloir de Flaubert. On avait besoin d'entendre la langue. Donc, même un ouvrage d'histoire ou n'importe quel autre ouvrage était d'abord prononcé oralement.
À voix haute.
Avec un accent très fort, car la langue était très accentuée, avec en roulant les airs, nous savons que les latins roulaient les airs, avec de fortes ponctuations, c'était très animé, c'était très sonore. Le latin, c'est une musique.
La vraie richesse du Mexique, ce n'est pas son pétrole, c'est sa dignité. Je veux dire sa culture. La richesse de votre pays, ce sont ces hommes, ces femmes, ces architectes, ces peintres, ces écrivains, ces techniciens, ces chercheurs, ces étudiants, ces travailleurs manuels et intellectuels. Que valent les ressources naturelles sans les ressources humaines? Le Mexique créateur compte autant, sinon plus, à nos yeux, que le Mexique producteur, c'est le premier qui met en valeur le second.
Les orateurs nous ont livré des discours magnifiques, Cicéron le premier, nous en connaissons beaucoup. Mais ces discours ont été écrits généralement après la bataille, si j'ose dire. Une fois le procès gagné ou perdu, n'est-ce pas, ou après l'événement politique, comme dans l'affaire Catilina. Et ça, c'est très important. Mais il faut savoir également que dans les ouvrages d'histoire, un Tite-Live, un Tacite, un Sallust, tous les historiens qui nous livrent des discours d'hommes politiques extrêmement bien construits, extrêmement beaux, ces discours ont été réécrits par les historiens eux-mêmes. Ce ne sont pas les discours prononcés par les orateurs au moment où ils les ont prononcés. Bon, une petite anecdote, par exemple, tous ceux qui ont fait du latin dans leur jeunesse ont appris le promilone où Cicéron devait défendre Milon. Bon, on va pas rappeler l'histoire. En tant qu'avocat, on va pas rappeler l'histoire, mais nous nous trouvons dans une période politique extrêmement troublée, et il faut bien dire que le jour où Cicéron devait prononcer sa plaidoirie, eh bien, c'était à l'extérieur, c'était sur le forum, et il y avait un monde fou, notamment tous ses ennemis politiques qui étaient là et qui étaient difficilement contenus par les soldats. Il faut savoir qu'il y avait, j'allais dire, des CRS partout, n'est-ce pas? Donc on imagine très bien tous les soldats qui sont là, les hommes politiques les plus en vue, Pompée qui trônait sur son estrade et qui le toisait, vous imaginez mon Cicéron. Alors, si je vous avoue que Cicéron, contrairement à ce qu'on peut imaginer, était plutôt mort de trouille à chaque fois qu'il prenait la parole, c'est Plutarque qui nous le dit, qu'il bafouillait toujours au début, qu'il fallait toujours un petit peu de temps pour qu'il se mette en train pour s'échauffer et que la parole prenne de l'assurance, vous imaginez que dans ces circonstances, ça a été lamentable. Pour tout vous dire, les témoignages que nous avons, Cicéron est arrivé là, il aurait bredouillé quelques phrases en quelques minutes et il se serait éclipsé vite fait, n'est-ce pas, ni vu. Naturellement, Milon a été condamné, il était parti sûr du désastre avant même le verdict et il s'était enfui à Marseille. Alors, le bon mot, c'est le suivant, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, nous lisons un promilonné magnifique, superbe de rhétorique, de style, de pensée, bon, n'a rien à voir avec ce qui a été dit le jour du forum. Ça, on peut en être absolument certain. Eh bien, Milon, dans son exil, a reçu le texte de Cicéron écrit après coup. Et Milon a regardé ça et il a répondu à Cicéron, qui ne voyait pas du tout l'intérêt de toutes ces belles phrases. Il se doutait pas que nous, ça pourrait nous intéresser, bien sûr. Mais il lui a écrit en lui disant, eh bien, heureusement que tu n'as pas prononcé ces paroles-là le jour de mon procès, parce qu'aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas la chance de manger de délicieux rougets grillés à Marseille.
Chaque jour, je sens mon indignation s'enflammer davantage à la pensée de l'avenir qui nous attend. Si nous ne revendiquons pas nous-mêmes notre liberté, depuis que la République est tombée aux mains d'une puissante oligarchie qui en dispose à son gré, c'est toujours à ces gens-là que rois et tétrarques payent leur tribut, que peuple et nation versent l'impôt. Quant au reste des citoyens, nous tous, les braves, les bons, les nobles ou les non-nobles, nous n'avons été qu'une tourbe, sans influence, sans autorité, asservie à des maîtres qui, si la République méritait son nom, devraient trembler devant nous. Aussi, toute influence, tout pouvoir, tout honneur, toute richesse sont à eux ou à leurs créatures. Ils nous ont laissé les échecs, les poursuites, les condamnations, la misère. Jusqu'à quand, mes braves, souffrirez-vous cet état de choses ? Ne vaut-il pas mieux mourir courageusement que de perdre honteusement une vie misérable et sans honneur, après avoir servi de jouet à l'insolence d'autrui?
Ma come zimu ba con forma Dianco meglio un plu alla che da pure sta in vergogna Dunque qui e rimai ritta e padiella uneve mo mica Allora io lo sacco e dimmi ciò che già fa se tu dai uso che tu
voglio Marie-Jean Vinci Guerra.
Nous sommes encore dans une tradition oratoire latine qui vient de loin.
Modus oratorius.
Voilà, du tréfonds de la Corse. Qui a été romaine. Et puis les Italiens ont pris le relais, ou du moins les Toscans, la langue toscane. On a prêché en Corse l'éloquence sacrée italienne, si je puis dire entre guillemets italienne, a marqué le peuple corse. Et puis s'est surajouté l'art, l'éloquence de la chair française. Donc là, l'Église a joué un grand rôle. Et puis après, l'Église, il y a le prétoire. Les Corses ont donné aux barreaux parisiens de très grands avocats, qui ont été en même temps des hommes politiques. L'avocat d'assises Moro Giaffer, avec ses superbes périodes latines. Campinchi, le civiliste.
Oui, ça veut dire qu'il y a là un croisement entre, d'une part, la tradition romaine issue de Cicéron, qui va être ensuite relayée par bon la Renaissance italienne, la rhétorique du parterre, la rhétorique jésuite, bien sûr.
Tout à fait.
Et la magistrature oratoire du palais.
Voilà. Et alors, nous passons au forum, maintenant. Et là, il y a une question délicate, et il y a une rupture, parce que les Corses sont dans le silence. Ils n'aiment pas parler de leurs affaires de famille, ils n'aiment pas parler des malheurs des autres qui peuvent un jour leur arriver aussi, et ils aiment bien rester dans le non-dit.
Est-ce que ça veut dire que l'art oratoire est un art de la ville ?
Alors, c'est un art de la ville, c'est un rituel et une rhétorique un petit peu d'obligation, celle du prétoire ou celle d'un forum politique, mais c'est une langue de bois, c'est un discours politique correct, si on peut dire, qui évite même l'invective ad hominem, qui évite les sarcasmes, et qui correspond un petit peu à un jeu oratoire, celui qu'on trouve dans le chant corse, du qui a mis répondre, c'est-à-dire que l'un
je lance... réponse, oui.
Oui. Il y a une connivence. Et le tribun, celui qui défend le peuple au sens étymologique, en fait, il parle pour sa tribu, sans que cela soit même nécessaire. Il s'adresse à ses électeurs, à son parti.
Aux clients.
Aux clients.
J'ai un dernier appel au règlement, M. Souchal. M. Souchal. Monsieur le Président, mes chers collègues, par la déclaration de mon collègue, M. Julia, mercredi dernier, et par des photographies que j'ai pu avoir en ma possession hier et aujourd'hui, j'ai appris et j'ai vu qu'une infime minorité d'étudiants, sous la conduite de M. Cohn-Bendit, ont profané la tombe du soldat inconnu. Permettez aux plus jeunes déportés de la résistance de ce Parlement de vous demander, mes chers collègues, parce que je suis convaincu que ce n'était pas la position de la quasi-unanimité des étudiants qui peut-être aujourd'hui se dressent dans certaines manifestations, permettez-moi de vous demander unanimement de vous lever et d'observer une minute de silence en hommage aux combattants de la guerre 14-18 et de ceux de 39-45 qui ont lutté contre les amis de M. Cohn-Bendit. La séance est suspendue.
Et c'est-à-dire que dans cet exercice-là, Marie-Jean Vichy-Guerra, l'éloquence corse tourne un petit peu à vide dans une stylistique presque scolastique, finalement.
Oui, c'était le cas. Et puis, il s'est produit quelque chose d'important, une rupture avec le discours nationaliste. Alors ça, c'est, je crois, extrêmement intéressant parce que ce que l'on ne disait pas publiquement, les nationalistes ont commencé à le dire en attaquant durement les clans et donc en cassant le politique correct. Et tous les autres discours se sont positionnés par rapport à ce discours. C'est un discours non seulement politiquement de rupture, mais c'est aussi un discours assez novateur au départ, même si après il va lui aussi être menacé par une certaine forme de convention.
Ô tempora, ô mores, senatus, haec intelligit, consul, videt, hic tamen vivit. Vivit, immo vero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad caedem unumquem qui nostrum.
Ô temps, ô mœurs, tout cela le Sénat le sait, le consul le voit, et cet homme vit encore, il vit. Que dis-je ? Il vient au Sénat, il participe à la délibération publique, il marque et désigne de l'œil ceux d'entre nous qu'on assassinera. Et nous, les hommes de cœur, nous croyons faire assez pour la chose publique si nous nous gardons de sa rage et de ses poignards. Toi, Catilina, c'est à la mort, sur l'ordre du consul, que depuis longtemps il aurait fallu te mener. Sur toi devaient se concentrer les coups que tu nous prépares.
Il y a plusieurs genres de discours. Alors, si vous voulez, il y a trois types de discours, on va dire, officiellement. Parce que, officieusement, il faut bien reconnaître que souvent, ces genres se mélangent et qu'on fait appel aux uns et aux autres. Il y a effectivement le discours judiciaire, c'est-à-dire celui qu'on prononce dans une plaidoirie et qui généralement repose sur des questions de droit et qui permettent d'essayer de contredire évidemment l'accusation et d'opposer deux thèses. Bon, ça c'est le discours judiciaire, on le connaît bien par les discours de Cicéron. Il y a le discours délibératif, ce qui est le discours politique, qui est celui que l'homme politique va prononcer effectivement lorsqu'il est au forum et qu'il a à défendre une cause. Politique. Je voudrais dire d'ailleurs entre parenthèses que c'est un travail d'athlète. Je ne sais pas si on s'imagine bien, nous aujourd'hui qui possédons de sonos très performantes, de micros et de tout ce que l'on veut, combien c'est un travail d'athlète que d'être un orateur sur le forum.
En plein air.
En plein air, sans micro bien entendu, avec la foule qui quelquefois vous apostrophe, vous contredit, avec les cortèges des pleureuses lors des enterrements qui passent, avec la musique, avec l'orateur concurrent à deux pas qui fait lui aussi son discours et qui essaye de parler plus fort que vous. Enfin, c'est un tohu-bohu monumental. Il est impossible, si on n'a pas un coffre, si on ne s'exerce pas, et il faisait des exercices physiques, on faisait des exercices respiratoires avec des pas sur la poitrine pour se gonfler les poumons, pour être capable de se faire entendre. C'est un exercice vraiment d'athlète.
Ici le Panthéon, où le général de Gaulle vient d'arriver à l'instant. Il est 12h16 très exactement, et sous un ciel gris, par un temps glacial, le chef de l'État vient d'arriver sur l'esplanade du Panthéon, accompagné notamment du Premier ministre, du ministre des Armées, de M. Malraux et de M. Saint-Denis. Il a salué rapidement le drapeau de la garde républicaine. Il se dirige maintenant à pas lents vers le catafalque, sur lequel repose depuis hier soir le cercueil contenant l'urne, cette urne qui contient les cendres de Jean Moulin. À l'instant même, le général de Gaulle s'immobilise et salue ce cercueil. Deux mots sur le cadre. Il ne reste plus une seule place de libre sur les trottoirs de la rue Soufflot, ni dans les tribunes qui ont été dressées de part et d'autre de l'esplanade du Panthéon. Le général de Gaulle se dirige maintenant vers la tribune placé devant la faculté de droit. Il va prendre place en compagnie des autres personnalités qui l'accompagnent. Il est accueilli par, je reconnais, M. Chaban-Delmas, d'autres membres du gouvernement. Le général est en uniforme et on voit très nettement une médaille verte sur...
Monsieur le ministre de l'État.
C'est M. Malraux qui prend la parole.
Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, combien d'enfants de France sauraient son nom? Il ne le retrouva lui-même que pour être tué, et depuis sont nés 16 millions d'enfants. Puissent les commémorations des deux guerres s'achever aujourd'hui par la résurrection du peuple d'ombre que cet homme anima, qu'il symbolise, et qu'il fait entrer ici comme une humble garde solennelle autour de son corps de mort.
Et puis le troisième genre, eh bien c'est le genre démonstratif. Alors le genre démonstratif, c'est celui que l'on trouve rapporté justement par les historiens dans les ouvrages, c'est celui qui était utilisé dans tous les discours de circonstance. Très très nombreux à Rome, on faisait des discours pour tout. Par exemple, pour un personnage qui avait remporté une victoire, on faisait un discours pour le louer, qu'on appelle une laudatio, ou pour les éloges funèbres. Un grand personnage ne pouvait pas mourir sans que immédiatement, en principe, son fils aîné, ou s'il était trop jeune, quelqu'un de la famille ou un ami politique, fasse un discours dithyrambique qui occupe deux heures de temps.
Que c'est l'équivalent des discours, par exemple, d'André Malraux.
Oui, effectivement. Eh bien, effectivement, les célèbres discours prononcés au Panthéon ou autre par André Malraux feraient partie de ce genre-là. Et ils en avaient également la force. De ce point de vue-là, même si la musique est différente, la voix de Malraux qu'on a tous dans l'oreille, avec ce rythme lent, ce rythme un peu incantatoire, crée une sorte d'atmosphère qui, mutatis mutandis, bien que les choses soient totalement différentes à Rome, devait représenter un peu de ce que la fascination de l'orateur faisait sur la foule qui l'écoutait.
Regarde, combattants, tes clochards sortir à quatre pattes de leur maquis de chêne et arrêter avec leurs mains paysannes formées au bazooka l'une des premières divisions cuirassées de l'Empire hitlérien, la division d'Assrach. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
Qu'est-ce que c'est que cette éloquence? C'est d'abord un des aspects d'une culture générale et juridique. Et les meilleurs orateurs de l'Assemblée, par exemple, actuellement, sont des gens qui ont une culture générale et juridique. C'est un art pour Cicéron de retenir l'attention, de frapper l'attention, de la retenir, de séduire les esprits, de convaincre, d'argumenter, et enfin d'entraîner les volontés. Le schéma est simple, il est bien connu, il y a un exorde, une argumentation, une péroraison qui met l'émotion à son comble. On va retrouver peu ou prou ce schéma dans les discours que je vais rapidement analyser. Il faut bien sûr y ajouter les dons naturels, même s'ils se travaillent, la voix, le jeu de comédien, le style.
Oui, l'exercice physique, c'est un exercice physique.
C'est un exercice physique. Alors, il a ses limites, parce que je ne vous parlerai pas du discours dans les meetings qui peut être fleuve, hein, comme il l'a été avec Simeoni, mais un art beaucoup plus difficile qui est le discours qui ne peut pas dépasser les 10 minutes à l'Assemblée de Corse. Je vous parlais de ce discours de rupture de Simeoni, le tribun. Alors, je ne le citerai pas, parce que ce sont des discours souvent... À la Castro, lyrique, argumenté, passionné, des discours fleuves. Mais un exemple d'un de ses fidèles, très rapidement, qui utilise une figure de style qui est celle de l'interrogation, mais très, très dure, très polémique.
Invective.
Non, sous la forme de la question. Où étiez-vous quand il a fallu mettre fin aux agissements spéculatifs d'une agriculture coloniale qui, en quelques années, a englouti des crédits faramineux avec pour résultat la destruction? Où étiez-vous, messieurs les élus, toutes tendances confondues de l'époque quand les barbouzes sortaient des commissariats pour plastiquer les frères Simeoni et tant d'autres? Où étiez-vous quand nous réclamions des moyens d'information de services publics, enfin libres et pluralistes? Où étiez-vous lors des débats, des manifestations qui ont animé le débat, etc., etc. Par contre, vous avez en contraste, mais dans la même mouvance, toujours nationaliste, un avocat Talamoni, le chef de file de Corsica Nazione, qui lui est loin du discours prophétique de Simeoni, auquel je faisais allusion. Avec modestie, il s'efface devant le peuple. C'est un discours un petit peu à la Saint-Just, assez froid, où il n'y a pas de pathos.
Il y a l'argumentation.
Il y a une argumentation, enfin son argumentation, parce qu'il est dans sa doctrine, en quelque sorte. Et c'est le discours, ça, où il offre de façon saisissante une main tendue. Je vous lis la péroraison qui est assez étonnante. Il faut écarter toute démarche d'exclusion, car je n'ai aucun goût pour l'emphase et je le dirai très simplement. La Corse est réellement aujourd'hui à un carrefour de son histoire et deux voies s'offrent à nous. La première voie mène, et cela est évident aujourd'hui, cela a été répété à l'affrontement et au drame, la seconde mène au dialogue et à la paix. En ce qui nous concerne, nous avons choisi la seconde et depuis longtemps, nous avons formulé une offre de paix. Il vous appartient aujourd'hui de vous déterminer. Il vous appartient de décider quelle suite vous entendez donner à cette offre de paix. Il vous appartient de choisir entre l'affrontement et le dialogue, entre l'aventure et la construction sereine et commune. Il vous appartient de choisir entre le chaos et la paix. Vous avez là quelque chose, une péroraison d'allure combinatoire.
Mes chers collègues, je dois attirer votre attention sur le fait que si les débats de l'Assemblée nationale doivent se dérouler dans un tel climat d'intolérance, véritablement, il n'y a pas d'espoir de les voir se dérouler d'une manière conforme ni à la dignité de l'Assemblée, ni aux intérêts. Je vais dire à M. Defferre et à M. Mitterrand ce que je leur aurais dit dans le privé s'ils m'avaient fait l'honneur d'accepter mon invitation de les recevoir. Je vous dis bien, si vous m'aviez fait l'honneur d'accepter mon invitation de vous recevoir, c'est que si vous aviez écouté et entendu par conséquent ce que j'avais commencé à dire, et si vous aviez vu ce que j'avais déjà fait, c'est-à-dire faire asseoir ceux de nos collègues qui s'étaient levés, mais oui, mais c'est un fait. Bon, c'est un fait. Alors, cela vous aurait dispensé d'un éclat parfaitement superfétatoire. En réalité, de quoi s'agissait-il? Mes chers collègues, tâchons de... Voulez-vous de part et d'autre aider le président à présider, ce qui me paraît indispensable à la tenue des débats, je le répète, et des séances? Il s'agissait de quoi? Un de nos collègues demande une minute de silence. Il est bien évident qu'une minute de silence et de recueillement, par conséquent, ne peut avoir lieu que dans l'assentiment général de l'Assemblée. Il est également évident que dans les secondes qui ont suivi, j'ai constaté que cet assentiment n'était pas général. Et qu'en faisant asseoir nos collègues, c'était afin de dire à l'Assemblée que l'assentiment n'était pas général, il n'était pas question d'une minute de recueillement, mais que, en son nom, unanime, j'en suis sûr, je rendais au soldat inconnu l'hommage qui lui revient. En son nom, unanime. Bon, unanime.
Parce qu'il y a dans l'exercice de la parole aussi une sorte d'ivresse.
Chez certains, peut-être. Et en ce sens, le discours des communistes est très intéressant. Parce que c'est un discours, celui d'un orateur assez intéressant de l'Assemblée, Paul-Antoine Luciani, c'est un discours qui est construit avec des... C'est un discours habile et, en fait, on pourrait penser même pervers, avec une référence à une histoire qui est celle ou de la Révolution, les grands moments, ou celle de la Résistance, et un discours extrêmement construit où on ne se paye pas de mots, mais on construit des effets de mots, des images, avec des effets de surprise, une dramatisation... une construction partant d'exemples et souvent en trois points. Voilà par exemple un discours de janvier 96 sur justement la réponse à la main tendue des nationalistes. Il brandit des textes du FLNC, des textes de la veille ou d'hier. Il les analyse en faisant peur. D'ailleurs, c'est un procédé très cicéronien. Quand Cicéron montrait Catilina dans l'Assemblée et disait « Il est là celui qui nous a condamnés », etc. Là, c'est un petit peu la même chose, puisque dans l'Assemblée, il y a les nationalistes.
Il les désigne.
Il les désigne. C'est ça le mot important. Ils sont désignés. Et il oppose à ces textes la référence de textes communistes. Il y a une référence aussi à des textes sur un moment de grande émotion après l'assassinat de Sozzi, donc un communiqué brandi, analysé. Et tout cela se termine par une péroraison. Le seul message que je voulais apporter ici dans cette assemblée, c'est la deuxième fois que nous discutons d'une manière un peu large des problèmes de la violence. Je suppose qu'on va y revenir parce qu'il y a peut-être d'autres choses. Et j'espère que la main qu'on veut nous tendre sera une main sincère. Je veux y croire, mais j'ai quelques doutes. Je ne dirai pas, comme un commentateur l'a dit, si vis pacem, para bellum. Je ne suis pas dans cette philosophie-là. Je veux la paix et je ne veux pas qu'on prépare la guerre. Alors déposez les armes.
La France, comme le Mexique, a dit non au désespoir qui pousse à la violence. Ceux qu'on prive rejette tout autre moyen de se faire entendre. Elle dit non à l'attitude qui consiste à fouler aux pieds les libertés publiques pour décréter ensuite hors la loi ceux qui prennent les armes pour défendre ces libertés.
Nous restons dans l'Antiquité, dans le secret des auteurs antiques plus exactement, avec votre livre, Le stylet et la tablette, Tiziano de Rondi. Vous êtes chercheur au CNRS et vous publiez cette étude aux belles lettres. La première question, c'est une question en gros de corpus. Y a-t-il des exemples de manuscrits d'auteurs de l'Antiquité gréco-latine qui nous soient parvenus ?
Oui, il y a au moins un exemple d'un manuscrit d'auteur, et c'est un papyrus de la bibliothèque d'Herculanum qui conserve les brouillons d'un livre des Philodèmes de Gadara, un philosophe du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et il s'agit d'un livre qui contient l'histoire de l'Académie de Platon. On conserve les brouillons de ces textes, c'est-à-dire les manuscrits qui ont été préparés sous la surveillance des Philodèmes, mais pas écrits par lui-même.
D'accord. Et nous allons voir avec vous, Tiziano de Rondi, à la fois les matériaux dont se servent les auteurs, les matériaux qui servent de support, et également, bien sûr, les étapes de la rédaction. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un auteur antique utilisait pour préparer un livre ?
Il utilisait des rouleaux de papyrus ou, à un certain moment, des codex, des parchemins. Mais dans la toute première phase de son travail, il pouvait utiliser aussi des petits morceaux de papyrus ou de parchemins ou des tablettes de cire ou de bois.
Et donc, le stylet et la tablette, le titre que vous avez donné à votre étude, Tiziano de Rondi, qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Signifie, alors, la tablette, on peut entendre tablette dans un sens général, c'est-à-dire une tablette de bois ou de cire, ou un morceau de papyrus ou parchemin, sur lesquels on écrivait avec un stylet, c'est-à-dire un morceau de bois, ou un roseau, ou aussi un morceau métallique qu'on trempait dans l'encre et qu'on utilisait pour écrire les brouillons ou les textes même.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'écrivain n'avait pas l'angoisse du papyrus blanc, si j'ose dire, mais il lui fallait d'abord, si on vous lit bien Tiziano de Rondi, il lui fallait d'abord compiler, réunir de nombreux extraits et ensuite on verra lire ses sources et en tirer des notes.
Oui, alors un auteur antique, il lisait les livres sur les sujets dont il allait s'intéresser, il prenait des notes sur des morceaux, sur des tablettes ou sur des morceaux de papyrus ou parchemin, il ramassait tous ces documents, après son secrétaire, qui était normalement un esclave, il recopiait ça sur des rouleaux et à partir de ces recueils des sources, il allait écrire ou préparer une première rédaction de son livre.
Cette première rédaction, on pourrait parler de brouillon ?
On peut parler de brouillon, mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'on n'écrivait pas soi-même, mais dans la plus grande partie des cas, on dictait son texte. Même dans la première rédaction, même dans la première phase.
Mais alors, avant de parler de cette dictée, ces fiches, est-ce qu'on peut parler de fiches à propos de ce matériel accumulé ?
On peut parler des fiches, mais pas d'une façon systématique. C'est-à-dire, on avait au tout début une série de fiches sur lesquelles on pouvait prendre des notes. Mais après, toutes ces notes étaient copiées probablement sur un rouleau de papyrus entier. Et on avait comme ça un recueil d'extraits qu'on utilisait dans un deuxième moment. On n'avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui un fichier, c'est-à-dire une boîte en bois ou en carton dans laquelle on avait toute une série de fiches.
Mais à ce propos, Tiziano Dorandi, votre livre, qui est à la fois très savant et accessible, puisque vous traduisez toutes les citations grecques et latines, votre livre montre à quel point la recherche est difficile et s'accompagne de polémiques, rien qu'à propos de ces fameuses fiches ou non dont vous venez de parler.
Oui, il y a eu une réaction à un premier article que j'avais écrit sur ce sujet. On a supposé que dans l'Antiquité, on utilisait des fiches comme aujourd'hui, c'est-à-dire on utilisait des fichiers. Mais je ne crois pas qu'on peut parler d'un vrai fichier dans l'Antiquité, mais plutôt qu'on peut parler des rouleaux qui contiennent toute la série d'extraits qu'on avait pris éventuellement dans une première phase sur des fiches. Et je pars de l'expérience directe que j'ai eue, c'est-à-dire l'étude d'un papyrus d'Herculanum dont j'ai déjà parlé au début de l'émission, c'est-à-dire le papyrus de Philodème qui contient les brouillons de son histoire de l'Académie. Là, on a vraiment un brouillon qui est composé d'une série d'extraits, donc d'anciennes fiches copiées l'une à côté de l'autre. On utilisait des fiches, mais pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire on pouvait utiliser quelques fiches, mais pas d'une façon systématique.
Mais alors, la deuxième source de polémique, et ça nous renvoie au documentaire que nous venons d'écouter, à savoir... Est-ce que les gens écrivaient de leurs propres mains ou est-ce qu'ils dictaient ? Et s'ils dictaient, cette espèce de style oratoire parvenu jusqu'à nous s'explique d'autant plus aisément.
Oui, je crois qu'on dictait. Dans la plupart des cas, on dictait. On a des exemples d'écriture autographe, mais les exemples sont très rares. Les seuls documents qu'on peut considérer vraiment autographes sont les brouillons des poèmes d'un poète et notaire du VIe siècle de notre ère, Dioscore d'Aphrodite, mais si vous regardez ces documents, il ne s'agit pas d'une vraie poésie, ce n'est pas la grande poésie d'Homère ou de Virgile, pour donner des noms d'auteurs antiques, mais sont les poèmes d'un poète amateur, et surtout on a parlé très récemment, et je suis d'accord avec cette définition, des documents écrits sous forme de poèmes. Donc ce n'est pas de la vraie littérature. Mais sont plutôt des documents auxquels on a donné une forme poétique.
Et là vous faites, parce qu'on parlait de brouillon, vous faites, Tiziano Dorandi, dans votre livre Le stylet et la tablette, une distinction entre les écrits hypomnématiques, il faudra expliquer ce que ça veut dire, et les compositions achevées.
Oui, selon moi, on avait dans l'Antiquité des pratiques, des publications, et j'utilise les mots publication entre guillemets, des façons de publier un livre, de diffuser un livre, c'est-à-dire on pouvait diffuser une version hyponématique, c'est-à-dire une version qui était réservée à un cercle restreint d'auditeurs, d'élèves, des camarades d'études, et une vraie diffusion, ce qu'on appelle, avec les mots grecs originaux, ekdosis, qu'on a traduit édition ou publication, mais que j'ai traduirait plutôt comme diffusion d'un livre. C'est-à-dire, un auteur antique, il distinguait si son livre devait avoir une diffusion restreinte, et alors c'était une version hyponématique, ou s'il devait avoir une vraie diffusion, et dans ces cas-là, il s'agit d'une vraie, ce qu'on aujourd'hui on appelle une vraie édition du livre.
Et dans ces cas-là, est-ce que la notion de droit d'auteur existait ?
Non, il n'existait pas. On a des petites quelques traces, surtout dans les mondes romains, mais on ne peut pas parler ni des droits d'auteur, ni des droits d'éditeur. Une fois que les livres avaient été diffusés, l'auteur perdait tous ses droits sur les livres. Chacun pouvait les lire, les copier, les diffuser, quelquefois aussi les faire passer sur son nom. On a des exemples des livres qui ont été attribués à un auteur très connu, mais qui ne sont pas à lui, ou des livres d'un auteur connu, qui nous ont été transmis sous les noms de quelqu'un d'autre.
Alors Tiziano Dorandi, j'aimerais juste pour terminer qu'on parle un peu de vous. Vous êtes italien, j'imagine.
Oui.
Et vous maîtrisez le latin, le grec.
Oui.
Et quelles autres langues ?
Les langues modernes, les français, l'anglais, l'allemand, comme langue parlée. Et après, je connais d'autres langues au niveau de la lecture.
Et vous publiez notamment en allemand certains articles que vous publiez.
J'avais publié une partie des articles qui sont à la base de ces livres en allemand pendant ces jours que j'ai passé à l'université de Cologne au début des années 90 en tant que boursier de la Fondation Alexander von Humboldt.
Et ce laboratoire du CNRS auquel vous collaborez, quel est-il ?
Je suis dans l'UPR 76 et il s'agit d'un laboratoire qui travaille sur la philosophie antique et surtout sur le néoplatonisme. Et j'ai fait partie de ces laboratoires, même si je ne m'occupe pas explicitement des philosophies néoplatoniciennes, mes intérêts sont plutôt sur les philosophies de l'époque hellénistique.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et je rappelle Tiziano Dorandi, le titre de votre ouvrage publié par Les Belles Lettres, Le stylet et la tablette dans le secret des auteurs antiques.
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, aujourd'hui centrée sur la première partie du documentaire de Marie-Christine Navarro, L'écho latin chez nos politiciens, avec Jean-Noël Robert, Marie-Jean Vinciguerra. Texte lu par Jean-François Gascard, Archivina, prise de son Marie-Dominique Bougot, mixage Jean-Louis Boissonnat et Pierre Bouillin, réalisation Françoise Camard.
C'était l'émission Tire ta langue, produite par Antoine Perrault avec Marie-Christine Navarro, diffusée pour la première fois le 29 février 2000 sur France Culture. Pour réécouter ou podcaster ce programme, franceculture.fr à la page des nuits.